Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 14e pour cette 9e saison, et notre invité aujourd'hui est le sénateur de l'Aude, Sébastien Pla. Bonjour, monsieur le sénateur.
Bonjour.
Alors, vous avez été élu c'était en septembre 20, je crois, donc ça fait un petit peu plus de 2 ans.
Oui, tout à fait.
Donc, entre-temps, je pense que vous avez eu le temps de trouver vos marques, de bien comprendre, puisque vous étiez élu pour la première fois, je le précise. Bon, rappelons quand même, le Sénat, pour beaucoup de gens, à tort ou à raison, est un lieu assez, je dirais presque inaccessible, en tout cas difficilement accessible. Alors, nous vous avons au micro aujourd'hui, monsieur le sénateur. Rappelez-nous succinctement quelles sont les missions fondamentales du Sénat.
Les missions, le Sénat a plusieurs missions. La première, c'est celle de fabriquer, de concevoir les lois au même titre que le député à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est-à-dire ça fait partie des deux chambres, le bicamérisme, pour employer un terme savant.
Tout à fait. C'est-à-dire que les uns sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire les députés, donc sont les représentants du peuple, et les autres, les sénateurs, sont les représentants des collectivités locales, des élus locaux, puisqu'ils sont élus par les maires, les conseillers départementaux, régionaux et les élus.
Donc, voilà ce qu'on appelle dans le jargon les grands électeurs.
Tout à fait, les grands électeurs. Mais les textes qui sont examinés, les lois qui découlent de notre belle République, sont examinés à la fois au Sénat, à la fois à l'Assemblée, sachant que la priorité est donnée sur des textes de loi qui ont trait aux collectivités en direct. Ce sont des textes qui sont d'abord examinés au Sénat, ensuite à l'Assemblée, et les textes qui touchent plutôt les sujets de société, l'actualité, sont d'abord étudiés et examinés à l'Assemblée et ensuite viennent au Sénat.
C'est-à-dire qu'on commence pas forcément par l'Assemblée?
Pas forcément, pas forcément. Les textes.
Mais c'est au cas par cas ou qui en juge?
C'est le bureau des deux assemblées, en fait, qui juge.
De la répartition.
C'est très codifié, très, très charté, normé. Voilà. En fait, la séparation, elle est liée à la fonction des uns et des autres. Les uns, ce sont les collectivités, les autres, le grand public et les sujets de société. Donc, chacun instruit, chacun examine son texte de loi, sachant que le gouvernement peut lui aussi déposer des lois. Donc, il y a trois véhicules, trois assemblées qui alimentent la réflexion des lois. Le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée. Le texte est examiné, par exemple, à l'Assemblée nationale en première lecture. Il est modifié, amendé. Il vient au Sénat. Le Sénat l'étudie, l'amende, l'ajuste. Et ensuite, se passe ce que l'on appelle une commission mixte paritaire où on réunit des députés et des sénateurs pour trouver un terrain d'entente sur le texte qui a été examiné par les deux chambres.
Avant le retour définitif à l'Assemblée.
Ou pas. Si cette commission mixte paritaire se met d'accord, ce qui est le cas dans 85-90% des cas, les gens ne le savent pas, mais l'ignorent, mais dans 90% des cas, les députés et les sénateurs arrivent à se mettre d'accord, et donc il n'y a pas une seconde lecture, ce que l'on appelle une seconde lecture, à l'Assemblée
donc
nationale.
Donc le texte est adopté dans ce cas-là.
Le texte est adopté.
Devient loi.
Ensuite, le décret d'application charge au président de la République, au Premier ministre, de le faire appliquer. Bon, parfois, ça peut attendre longtemps.
Oui,
une loi votée il y a deux ou trois ans n'est pas forcément appliquée aujourd'hui.
Oui, ce que le quidam moyen comprend difficilement, d'ailleurs.
Mais nous aussi, parce qu'on a l'impression de travailler dans le vide, parfois, et souvent, de travailler sur des textes de loi qui doivent trouver leur application de suite, parce que ça correspond à un besoin de la société, et le décret d'application tarde à paraître.
Oui, ça fait partie des bizarreries. À propos, alors également, alors sur le vocabulaire, il faut bien s'entendre, et j'avoue que ça n'est pas évident non plus, il y a la proposition de loi, il y a le projet de loi. Alors Sébastien Pla, expliquez-nous la différence.
Alors la proposition de loi, chaque élu peut proposer une loi.
C'est-à-dire un texte qu'il a élaboré lui-même.
Voilà, tout à fait. Moi, je prends mon exemple, je travaille actuellement avec le milieu sportif et notamment la patineuse artistique Sarah Beatball sur un sujet qui est important, qui est la protection des enfants. Donc on travaille un texte sur l'honorabilité dans le sport pour permettre justement répondre à un certain nombre de scandales liés à des abus sexuels sur des enfants.
On va y revenir parce que ça me semble intéressant. La casserole est sur le feu, en quelque sorte.
Tout à fait, totalement. Puis c'est d'actualité ce qui s'est passé avec Bruno Martinez, le gardien de l'équipe de France récemment. Mais donc, je fais une proposition de loi que j'inscris au Sénat, qui est publiée à l'ordre du jour du Sénat. Et pour que cette proposition de loi soit examinée et transformée en projet de loi, il faut que le bureau du Sénat accepte, à un moment donné, à l'inscrire à l'ordre du jour pour pouvoir l'examiner et l'étudier avec l'ensemble du Parlement. Voilà.
Alors, et c'est un projet de loi lorsque ça devient discuté,
C'est discuté. Parfois, souvent, des propositions de loi, malheureusement, ne sont jamais inscrites à l'ordre du jour et donc ne deviennent pas un projet de loi.
Oui, on dit souvent, il y en a beaucoup qui finissent dans les tiroirs. C'est vrai, vous vous confirmez.
Oui, c'est vrai. Donc c'est un énorme travail qui est accompli en amont pour faire une proposition de loi et qui parfois ne va pas au bout. C'est un peu frustrant pour l'auteur de la proposition de loi.
Bien sûr, mais enfin, il faut savoir que ça fonctionne comme ça et que faut pas s'en prendre forcément à celui qui a déposé la proposition de loi si ça n'aboutit pas. C'est pas forcément sa faute.
C'est pas sa faute.
Alors, il y a un vote qui a eu lieu au Sénat il y a quelques jours à peine, Sébastien Pla, que vous-même vous qualifiez d'historique. C'est celui qui vise, alors c'est un processus, c'est pas encore définitif, mais il s'agit d'inscrire dans la Constitution la notion de la liberté des femmes à recourir à l'IGV, c'est-à-dire à l'avortement.
Oui, tout à fait.
Bon, il s'agit bien donc de l'inscrire dans la Constitution. Alors, c'est un droit, on connaît la loi Veil qui a cinquantaine d'années maintenant.
1975.
Bon, oui, voilà, donc pas loin d'une cinquantaine d'années. Mais pourquoi vous semble-t-il urgent, enfin tout utile et peut-être urgent d'inscrire ceci dans la Constitution?
Parce que ce qui nous paraît aujourd'hui évident, l'IVG ne l'est pas forcément pour toutes les femmes, et que ce droit n'est pas aujourd'hui gravé dans le marbre et fait qu'il y a encore des zones d'ombre.
Donc, en France, parce qu'on sait qu'aux États-Unis c'est le cas parfois assez gravement, mais on n'imagine pas que ça puisse être le cas en France.
Et pourtant c'est le cas. Donc c'est un artifice juridique qui permet d'acter ce droit fondamental pour toutes les femmes. Vous savez qu'il y a 200 000 femmes qui ont recours chaque année à l'interruption volontaire de grossesse en France. Donc c'est un sujet important. Et pourquoi c'est historique? Parce que le Sénat, qui est une chambre plutôt conservatrice, de moins en moins malgré tout, beaucoup plus progressiste et ouverte, y compris ouverte sur les médias et un peu moins chambre noire, a toujours refusé d'inscrire l'IVG à la Constitution. Et aujourd'hui,
c'est-à-dire que ça s'est déjà présenté, l'occasion s'est présentée déjà.
L'occasion s'est présentée. Et là, aujourd'hui, ce texte est passé parce que l'ensemble des bancs, en fait, des élus de tous bords, ont décidé de voter favorablement, y compris chez les Républicains, qui étaient plutôt réticents à cette idée, considérant que aujourd'hui la loi Veil étant couvrant à peu près tous les champs d'application, ce n'est pas le cas.
Oui. Une petite parenthèse, Sébastien Pla, vous parliez donc d'assemblée plutôt conservatrice. C'est la droite qui est majoritaire au Sénat.
Oui, c'est la droite qui est majoritaire avec ses alliés de l'Union centriste.
Oui,
elle n'a pas la majorité absolue, la droite.
Et vous,
Sénat,
vous...
Mais moi, ce que je répète à longueur de journée, et ce que j'étais quelque part allé chercher au Sénat, c'est cette intelligence collective qu'il y a entre les différents bancs et les différentes appartenances politiques au Sénat. Moi, je siège à la Commission des affaires économiques. Dans 90% des cas, nous sommes d'accord, des communistes aux républicains, sur les solutions proposées.
Alors que théoriquement, vous êtes opposant.
Ah, théoriquement, nous sommes opposants. Alors, les points de divergence sont essentiellement sur les grands sujets de société. L'IVG en fait partie, mariage pour tous en faisait partie à l'époque. Donc sur les grands sujets de société, mais globalement sur les problématiques économiques, sur les questions des problématiques des collectivités, sur l'actualité, la gestion du Covid, l'accompagnement des entreprises. Ben, nous avons été quasiment d'accord, je vous dis, dans 80-90% des cas. Et il y a une culture au Sénat du compromis, du consensus. On s'écoute au Sénat, à la différence de l'Assemblée nationale.
Oui, ça ne vocifère pas comme voilà, ce qu'on voit à la télévision.
Oui, c'est absolument pas ça. C'est pour ça que j'invite les auditeurs à venir visiter le Sénat, qui est visitable tous les jours. Et c'est avec plaisir que vous fera découvrir cette belle chambre, cette belle assemblée, qui est, en termes d'image, en tout cas renvoyée, la stricte opposition de l'image qui est renvoyée par l'Assemblée nationale, où les députés sont dans la posture, essentiellement, dans la recherche de la petite phrase et l'invective.
Oui,
il faut faire le buzz, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. On est sur scène, on fait du théâtre.
C'est ça, c'est du théâtre. Moi, je dis que c'est du cirque. Et on ne peut pas se permettre de faire du cirque et de renvoyer ces images-là à la population française aujourd'hui. Enfin, si on veut être crédible, il faut travailler sur le fond des dossiers, trouver des solutions, s'écouter quand on parle, chercher le consensus, le compromis, dans l'intérêt général. L'intérêt général, pas l'intérêt partisan d'un parti politique, d'un mouvement, ou pour se faire plaisir, parce que si vous cherchez des petites phrases, vous aurez plus souvent des micros tendus, vous passerez plus souvent à la télé, notamment sur CNews.
Voilà, mais ça n'apportera pas grand-chose au bout du compte. Pour en terminer sur cette affaire, alors donc de l'inscription à la Constitution de cette possibilité, enfin de liberté pour les femmes, c'est un processus. Vous avez voté vous-même personnellement pour, j'imagine, mais oui. Ça n'est pas encore définitivement acquis.
Non, c'était la première lecture au Sénat. Le texte va revenir à l'Assemblée nationale et comme c'est une modification de la Constitution, le président de la République peut passer par la voie référendaire. Il est possible qu'il organise un référendum pour l'inscrire. Et il y a la possibilité aussi de réunir le Parlement
en congrès à Versailles aussi. Comme ça s'est fait à l'occasion.
Oui, puisque ça touche l'essence même de la Constitution de notre belle République.
Ouais. Et qu'est-ce qui se profile? Vous avez des rumeurs ou des ressentis qui vous laissent deviner telle ou telle orientation?
Globalement, pas uniquement sur ce texte de loi. J'ai la vaste impression que le président de la République aujourd'hui veut absolument passer en force sur un certain nombre de dossiers et de sujets, dont celui-ci, dont la réforme des retraites, la loi immigration, il veut lancer un grand chantier sur la réforme constitutionnelle aussi. Et aujourd'hui, il n'a pas de majorité, donc c'est pas simple. Donc il utilise des artifices, comme pour les retraites. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais la réforme des retraites aujourd'hui, bien qu'il y ait le processus d'examen au Parlement, une pseudo-concertation, s'il souhaite, puisque c'est une modification du projet de loi de la sécurité sociale, il pourra passer en force avec le 49.3. Donc déjà, pensez... les dés sont pipés sur le texte de loi de la réforme des retraites, donc on va se battre, faire des propositions.
Et vous pensez que pour la liberté des femmes et de l'IGV, ça sera la même chose?
Je pense que s'il y a la majorité, vu qu'il y a la majorité sur les deux chambres... Ça ne devrait pas poser de problème pour pouvoir l'inscrire.
Bon, donc on peut penser que dans un avenir proche, cette formule sera, comme on dit, inscrite dans le marbre de la Constitution.
C'est une très belle victoire pour le droit des femmes. J'en suis très heureux.
On marque une première pause, Sébastien Pla. On se retrouve pour une seconde partie. On va évoquer bien le reste du travail d'un sénateur, parce qu'il n'y a pas que inscrire des choses dans la Constitution.